Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au lendemain de la découverte dans le Gers d'un corps étant probablement celui de Liana, 11 ans, l'exécutif a pointé des dysfonctionnements accablants, je cite, des services de l'État. Le président libanais Joseph Aoun a sommé l'Iran de ne plus intervenir dans son pays et a affirmé au Hezbollah, soutenu par Téhéran, que la diplomatie était la seule solution au conflit avec Israël. Une enquête a été ouverte aujourd'hui à Paris pour torture et crimes de guerre suite à un signalement du gouvernement sur la manière dont les Français de la flottille pour Gaza ont été traités par les autorités israéliennes, selon le parquet national antiterroriste. L'émotion reste vive après la découverte d'un corps qui pourrait être celui de la jeune Liana, disparue il y a une semaine dans le Gers. Au-delà du drame, l'affaire soulève de nombreuses questions sur le fonctionnement de la justice et le traitement de certaines plaintes. Le gouvernement réunit aujourd'hui les ministres de l'Intérieur et de la Justice. On revient sur cette affaire avec vous, Nadia Bencher.
En effet, Nawel, au lendemain de la découverte d'un corps d'enfant dans une exploitation agricole du Gers, les autorités cherchent désormais à comprendre ce qui a pu dysfonctionner dans le suivi du principal suspect. La jeune Liana, 11 ans, avait 29 mai à la sortie de son collège de Florence. Jeudi, un corps portant des vêtements similaires aux siens a été retrouvé près du village de Puy-Casquier. Une autopsie doit encore confirmer formellement son identité, déterminer les causes du décès. Le principal suspect, un homme de 41 ans, placé en détention provisoire pour enlèvement et séquestration, est la victime. Au fil des jours, plusieurs éléments sont apparus sur son passé judiciaire, notamment une plainte pour viol sur mineur classée sans suite. L'affaire met aujourd'hui en lumière de possibles défaillances dans le traitement de certaines plaintes et dans le fonctionnement de la chaîne judiciaire. Face à l'émotion suscitée par ce drame, le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé de réunir les ministres de l'Intérieur et de la Justice afin d'examiner les éventuelles failles du système. Une enquête administrative a déjà été lancée. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est dit terrifié par ce qu'il qualifie de possible dysfonctionnement de la justice. Mais les procureurs généraux de la République appellent à la prudence. Dans un communiqué commun, ils soulignent qu'aucune responsabilité ne peut être établie à ce stade et qu'aucune sanction ne peut être envisagée avant les conclusions des inspections en cours. Une affaire qui a immédiatement pris une dimension politique. À droite, Jordan Bardella accuse l'État d'avoir lourdement failli, tandis que Bruno Retailleau appelle à une réforme en profondeur du système judiciaire. De son côté, Édouard Philippe plaide pour un principe de précaution face aux violences faites aux enfants. À gauche, Marine Tondelier dénonce quant à elle les failles d'un système qu'elle juge incapable de traiter efficacement les violences sexuelles. Dans l'attente des conclusions de l'enquête administrative et de l'autopsie, le gouvernement assure vouloir faire toute la lumière sur les éventuelles défaillances révélées par cette affaire.
Merci Nadia Bencher pour toutes ces précisions. Et depuis le Monténégro, Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin. Il a exprimé la solidarité, l'affection de la nation à la famille de Liana. Pour lui, il est clair qu'il y a eu un dysfonctionnement de la justice. Je vous laisse écouter le président de la République.
Et ceci participe de l'effort que nous organisons avec le gouvernement, cela depuis des années, par le réinvestissement que nous avons fait pour la justice et pour l'intérieur. Et moi, je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire. Parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Donc elles doivent être établies. Et ça participe aussi de cet effort qui est fait sur la protection de nos enfants. Et aujourd'hui, nous avons un système collectif, je dirais, du système judiciaire à ce qui est fait par l'aide sociale à l'enfance plus largement, qui doit être encore amélioré et rehaussé. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé. C'est faux. Donc comme vous, je suis choqué par ce qui s'est passé et par ce qu'on entend. Maintenant, on doit les clarifier en bon ordre. On doit laisser le temps minimal aux inspections qu'on a mandatées pour pouvoir clarifier cette situation. Et sur la base de travaux qui ont été établis, pouvoir justement, à ce moment-là, voir quelles sont les responsabilités collectives, systémiques, et les responsabilités éventuellement individuelles, et prendre toutes les mesures requises. Mais on ne lâchera pas.
Emmanuel Macron et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, estiment lui que le traitement des procédures judiciaires visant Jérôme Barella, le principal suspect dans la disparition de Liana, est tout à fait inacceptable et se dit terrifié par le dysfonctionnement autour des procédures judiciaires visant le principal suspect, Gérald Darmanin.
Nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement qui, je crois, est révélateur, je l'ai dit dans la commission d'enquête parlementaire, de notre mauvaise organisation et sans doute au ministère de la Justice comme ailleurs, du fait que nous ne prenons pas au sérieux la parole de l'enfant. Et nous devons absolument prioriser les plaintes des êtres les plus vulnérables qui soient, même quand il n'y a pas assez d'officiers de police judiciaire, même quand les parquets sont débordés, quand il y a, et c'est le sens des instructions de politique pénale depuis que je suis arrivé, quelques jours après mon arrivée à la chancellerie, j'ai pris une instruction qui a mis l'enfant en numéro un des actions de ce que devaient faire les procureurs de la République. Quand il y a une plainte d'un enfant, on doit quasiment tout arrêter pour la suivre, parce que c'est l'être le plus vulnérable qu'il nous faut protéger. Manifestement, là, on verra ce que dira l'enquête, mais on a de quoi s'interroger sur notre responsabilité collective.
Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Direction le Moyen-Orient maintenant. L'armée israélienne a ordonné aux habitants d'une dizaine de villages du Liban de les évacuer et a commencé à frapper l'un d'entre eux, selon l'agence de presse officielle. L'armée affirme poursuivre ses attaques contre le Hezbollah qui a rejeté un accord de cessez-le-feu. Le président libanais Joseph Aoun a sommé l'Iran de ne plus intervenir dans son pays et a affirmé au Hezbollah, soutenu par Téhéran, que la diplomatie était la seule solution au conflit avec Israël. Toujours sur la situation au Liban, l'ONU a plus que doublé aujourd'hui son appel aux dons pour le pays du Cèdre et réclame près de 640 millions de dollars sur 6 mois. On reste au Moyen-Orient. L'armée iranienne a dit avoir tiré des missiles d'avertissement contre 2 navires américains en mer d'Oman, ce qui fragilise le cessez-le-feu en vigueur avec les États-Unis depuis le 8 avril. Le chef de la diplomatie iranienne a écarté toute possibilité de rencontre suggérée par Donald Trump entre le président américain et le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. Dans un tout autre volet, une enquête a été ouverte aujourd'hui à Paris pour torture et crimes de guerre suite à un signalement du gouvernement sur la manière dont des Français de la flottille pour Gaza ont été traités par les autorités israéliennes, selon le parquet national antiterroriste. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé aujourd'hui lancer un plan conjoint de 518 millions de dollars de juin à novembre pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et dans des pays limitrophes. On reste en Afrique, longtemps considérée comme la principale puissance industrielle du continent. L'Afrique du Sud a été dépassée cette année par le Maroc dans le classement de la Banque africaine de développement. Une évolution qui reflète avant tout la diversification de l'économie marocaine et l'essor de nouveaux secteurs industriels. On écoute l'analyse de l'économiste Abdelmalek Alaoui.
Alors d'abord, il faut rappeler ce qu'est le classement de la Banque africaine de développement. C'est un indice composite. Hein. Il ne parle pas de volume, il parle de votre niveau d'industrialisation. Il est évident que l'Afrique du Sud, elle a des capacités plus importantes parce qu'elle a notamment une industrie qui est issue des mines et des dérivés des mines. L'Égypte a un marché intérieur beaucoup plus grand que le Maroc. Donc en réalité, c'est comment est-ce que intrinsèquement le pays est de plus en plus développé, comment est-ce qu'il développe tous les secteurs industriels. Dans le cas du Maroc face à l'Afrique du Sud, c'est à la fois la progression importante du Maroc avec les 2 constructeurs automobiles et les 1000 équipementiers automobiles qui sont derrière, mais également l'écosystème aéronautique très important. Il n'y a pas un seul avion dans le monde qui vole sans une pièce marocaine. Et puis le dernier pari en date, qui est celui de la mobilité électrique et de la batterie, couplé à ces infrastructures de premier rang, dont le port de Tanger Méditerranée, qui est aujourd'hui le premier port d'Afrique avec 11 millions de conteneurs par an.
Abdelmalek Alaoui, économiste au micro de Nadia Bencher. Dans l'actualité en France, Sophie Binet, seule candidate déclarée, a été réélue à la tête de la CGT, le 2e syndicat français, à l'issue d'un congrès à Tours placé sous le signe du rassemblement. Le filtrage de l'accès aux services d'urgence des hôpitaux par le 15 va être étendu pour lutter contre l'engorgement de ces services par des patients qui pourraient être pris en charge ailleurs, a annoncé le ministre de la Santé, Stéphane. Stéphanie Rist. Et enfin à Paris, les cantines scolaires seront gratuites à partir de la rentrée de septembre pour les familles les plus modestes dans les écoles et les collèges publics, soit pour plus de 17 000 enfants, a annoncé le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.